Le rendez-vous du libraire. Le rendez-vous du libraire, une émission proposée par la librairie de la Trinité et animée par Agathe de Grey.
Chères lectrices, chers lecteurs, bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode du rendez-vous du libraire. Cette semaine, nous célébrons encore le Nouvel An chinois à la librairie. La nouvelle année du calendrier lunaire chinois a commencé le 22 janvier sous le signe du Lapin Doux. Et c'est l'occasion pour nous de mettre à l'honneur les éditions Piquier, spécialistes des littératures d'Asie. Cette maison d'édition, qui existe depuis 1986, est intégralement dévolue aux littératures du Japon, de la Corée, de la Chine, de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. Car selon l'adage de la maison, l'Asie est suffisamment vaste pour que l'on ne s'occupe que d'elle. On trouve dans leur très beau catalogue à la fois et essentiellement de la littérature qui nous vient d'Asie, grands classiques ou livres contemporains, mais aussi des ouvrages de style plus documentaire à destination du public français pour faire connaître les cultures de l'Asie. Comme chaque début d'année, la maison Piquier a édité une belle estampe, cette fois-ci une grue en noir et blanc, qui est offerte pour l'achat de deux de leurs livres de poche. C'est l'occasion de redécouvrir ensemble les plus beaux livres du catalogue Piquier Poche.
Le rendez-vous du libraire. Le coup de cœur de la semaine.
Commençons immédiatement avec un ouvrage qui a séduit bien des lecteurs et dont l'autrice a produit de nombreux et très beaux livres. Il s'agit du roman Le dernier quartier de lune de la chinoise Qi Zijian. Née dans le grand nord de la Chine en 1964 sur le territoire de l'ancienne Mandchourie, à la frontière avec la Sibérie russe, l'autrice a une sensibilité toute particulière pour les modes de vie anciens qui perdurent dans son pays, où en parallèle des métropoles connectées, subsistent encore bien des villages agricoles aux technologies du siècle dernier. Dans ce roman, l'un de ses premiers, l'autrice s'intéresse au clan nomade des Evenks, peuple éleveur de rennes, de plus en plus contraints de renoncer à leur mode de vie ancestral pour s'installer dans des hameaux construits à leur intention. Mais ce passage à la vie sédentaire, avec les rennes élevées en liberté, désormais parquées dans des enclos de fils barbelés, est souvent vécu comme un véritable arrachement. Et c'est de ce constat que Qi Zijian a tiré l'inspiration de ce roman. Après un voyage en Australie, où l'autrice a découvert le sort des aborigènes déplacés et leurs souffrances, faites d'inactivité, de consommation d'alcool et de ventes touristiques, Qi Zijian est interpellée par un article de presse relatant le destin d'une peintre issue d'un clan Evenk, parti vivre en métropole et revenu se suicider quelques années plus tard dans sa montagne natale. De là naît un projet, celui d'un roman ayant pour narratrice une femme Evenk qui compterait sa vie au soir de cette dernière, à destination, peut-être, de ses descendants qui changent de mode de vie. Parole confiée à la postérité, ou peut-être seulement au vent, quand cette postérité n'existe plus, quand tout un peuple se délite. Pour écrire ce roman, Qi Zijian enchaîne les études documentaires, se renseigne de tous côtés, avant de vivre un temps aux côtés d'un clan Evenk. C'est de ce grand travail de documentation qu'a émergé le roman que je vous présente aujourd'hui, Le dernier quartier de lune. Tout commence lorsque l'essentiel d'un clan Evenk vote et choisit de s'installer dans les maisons construites tout spécialement pour eux par le gouvernement chinois, sans se fier à l'opinion de leur doyenne qui les laisse partir, mais qui ne les suit pas. Pourquoi faire quand on a connu 90 hivers ? Au lieu de déménager, la narratrice compte sa vie, la naissance de ses enfants, le rythme des saisons et surtout, la trame de changement venue bouleverser le peuple Evenk. L'abattage de bois vivant alors qu'ils ne pratiquent que le ramassage de bois mort, les incursions de soldats japonais, les changements de paysage, les infrastructures modernes qui gagnent du terrain. Mais la vie, comme nous le montre cette narratrice si âgée et si sage, est tissée de bouleversements. Alors ce récit n'est pas celui d'un effondrement. Il contient surtout les joies et les peines d'un clan, les surprises, les beautés, parfois un enfant recueilli, une œuvre d'art peinte à même un rocher de la berge, une jupe de plume cousue pour séduire. Ouvrez le dernier quartier de lune et initiez-vous à la culture Evenk, au récit d'une vie pleine et de toutes les générations qui gravitent autour. Initiez-vous à une voie sans âge et sans frontières.
Le rendez-vous du libraire. Les nouveautés de la semaine.
Difficile d'honorer toute l'Asie dans une seule chronique, à la manière des éditions Piquet. Et pourtant, il existe un ouvrage, fruit du travail colossal d'une personne, que l'on trouve désormais édité au format poche et qui possède une forme d'exhaustivité merveilleuse. Il s'agit des contes d'une grand-mère d'Asie, réunis et racontés par la bretonne Yveline Ferret. Cet ouvrage est le résultat de toute une vie de recherches, de rencontres, de consultations de fonds documentaires. On trouve collectés et enfin rassemblés dans ce livre les contes chinois, japonais, tibétains, indiens, cambodgiens et vietnamiens qui avaient fait l'objet de publications antérieures séparément, sous les noms de contes d'une grand-mère chinoise ou encore contes d'une grand-mère cambodgienne. Mais pour la première fois, toutes ces grand-mères ont été fondues en une seule, une grand-mère d'Asie. Découvrez ces contes traduits sous la plume d'Yveline Ferret dans une édition érudite aux notes de bas de page et aux avant-propos essentiels pour mieux comprendre les contextes culturels qui ont présidé à l'émergence de ces contes. Sans jamais clore le sens de ces textes, ni chercher à limiter leur interprétation, l'autrice pose ainsi délicatement quelques bornes destinées à élargir notre champ de vision, de façon à ne pas penser reconnaître dans ces contes que nos symboles et nos mythes européens, mais plutôt pour nous apprendre à identifier les aspects de culture que l'on connaît plutôt mal. Avis aux grands et aux petits amateurs de contes. Les contes d'une grand-mère d'Asie représentent une somme passionnante, propre à ouvrir grand nos esprits et notre culture générale. N'hésitez pas à vous y plonger en ce temps de la nouvelle année lunaire. Empereurs, princes et princesses, démons, divinités et maîtres bouddhistes vous y attendent. Je vous propose dès maintenant de découvrir l'un des contes de la grand-mère chinoise, la nuit du mariage des rats. Donc, la légende raconte qu'un jour, en des temps lointains, peut-être à la veille de l'invasion mongole, un rat, fuyant la chaleur estivale, avait élu domicile dans une caverne au nord de Hangzhou. Il s'était arrêté là, séduit par le charme et la douceur du paysage, la fraîcheur des vertes montagnes ceinturant un lac limpide, ému par la féerie des tours, remparts et pavillons de la ville aux mille toits vernis, la grâce d'un grand fleuve sinueux et le souffle de l'océan. Rat, fort discret et fort sage, il s'était installé à l'écart des collines du sud, où s'élevait le palais impérial, de la colline des 10 000 pins, résidence des hauts fonctionnaires de la ville, et du mont des Phénix, demeure des marchands enrichis par le commerce maritime. Son jardin était une forêt au versant d'une montagne solitaire, sa maison une antique caverne, fraîche en été, chaude en hiver. Là, par son contact étroit avec l'essence vitale cosmique et la vertu de sa conduite exemplaire, il devait atteindre cet âge vénérable où l'on acquiert les pouvoirs des vieilles choses, puis celui, plus vénérable encore, des métamorphoses, en jolie femme, précisément. C'est vers cette époque que des voyageurs, forcés de traverser à la lune montante cette montagne isolée, commencèrent à raconter des histoires d'apparitions dans les bois. Ils jurèrent avoir vu se promener aux abords d'une caverne une femme à la beauté de jade, à la frissonnante traîne de soie, mais hélas, elle n'était point ressortie de l'antre obscur où, à leur approche, elle s'était subitement engloutie. D'autres, pour l'avoir entrevue derrière les arbres, prétendirent reconnaître en elle une célèbre courtisane de la voix impériale, attendant là son amant. Et d'autres encore, pour l'avoir entendue chanter, affirmèrent qu'elle appartenait à la plus prospère maison de thé de Hangzhou. C'est dire que rien ne manquait à sa grâce humaine et citadine. Ne portait-elle pas, comme les princesses impériales et concubines, les femmes de haut rang ou les épouses de riches marchands, anneaux de chignon, parures de tête, boucles d'oreilles à pendeloques et bourses à parfum pendues à la ceinture? Quel homme, la voyant ainsi, aurait pu penser à un rat se donnant des airs de femme? Quel homme, l'apercevant ainsi en ce lieu écarté, n'aurait été intrigué et séduit? Et si vous préférez écrire plutôt que de lire, alors Piquet propose un autre merveilleux ouvrage, centré sur le Japon cette fois. J'écris des haïkus. Ce magnifique petit manuel aux airs de cahier de vacances au Japon, pensé pour la jeunesse, est un guide d'initiation à l'art des haïkus, petit poème japonais à la forme fixe, dont nous autres Européens ne connaissons la plupart du temps qu'une seule règle, le poème doit faire 3 lignes. Il est bien évident que cet art poétique, plusieurs fois centenaire, né sous l'égide du grand Basho vers le XVIIe siècle, est bien plus codifié que cela. Place des saisons dans le poème, nombre de syllabes fixes et règles de décompte, ce petit manuel contient absolument toutes les clés pour comprendre au mieux les haïkus. exercice d'écriture d'originaux et créatif le dispute à des biographies des plus grands maîtres poètes et à nombre de haïkus célèbres ou moins célèbres posés en exemple. L'ensemble, organisé selon le fil des saisons, en profite pour vous conter les grands événements de l'année japonaise, pour vous immerger au mieux dans la culture de ce pays. Au sortir de ce petit livre, illustré de bout en bout, à la pédagogie exemplaire, vous serez passé maître dans l'art du haïku. Car si cette édition s'adresse d'abord à la jeunesse, elle est suffisamment détaillée pour intéresser et renseigner les adultes. Tout ce qui est ludique n'est peut-être pas destiné qu'aux plus jeunes. Le livre vante une méthode simple, comme un jeu d'enfant, mais avec ses quelques règles, c'est tout un univers d'écriture qui s'offre au lecteur. Et parce que je suis bonne joueuse et que j'ai bien appris mes leçons de haïku, je vous quitte sur quelques mots, trois lignes, un souffle, cinq puis sept puis cinq syllabes. Tu verras l'hiver, des stries noires sur la neige, un livre entrouvert. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent début d'année lunaire et les meilleures lectures qui soient. Et vous retrouverez la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rendez-vous du Libraire. En attendant, vous pourrez réécouter cet épisode ainsi que les précédents au podcast sur le site de Radio Présence, ou nous retrouver en boutique à la librairie de la Trinité de Toulouse, pour découvrir les merveilles des éditions Piquet, ainsi que la très belle estampe offerte pour l'achat de deux livres de poche. Pour mémoire, je vous ai présenté aujourd'hui Le dernier quartier de lune de Chi Zijian, Les contes d'une grand-mère d'Asie par Evelyne Ferret et J'écris des haïkus par Véronique Brindeau et Sandrine Thomen. Mais les éditions Piquet comptent bien d'autres livres de toute beauté qui n'attendent que vous pour être lus.